Chapitre 11. Je demeurai quelque temps en haut de l'escalier, et peu à peu pénétra dans mon intelligence la notion que, mon visiteur étant parti, il n'était réellement plus là. Puis je retournai dans ma chambre. La première chose qui frappa ma vue, à la lumière de la bougie que j'avais laissée allumée, fut que le petit lit de Flora était vide. Et ceci me coupa net la respiration, et me frappa de toute la terreur que, 5 minutes auparavant, j'avais réussi à maîtriser. Je bondis là où je l'avais laissé coucher, le petit couvre-pied de soie et les draps étaient dérangés, les rideaux blancs avaient été soigneusement tirés dans le but de me tromper. Au bruit de mes pas, quel inexprimable soulagement, un autre bruit répondit. Je remarquai que le store de la fenêtre remuait, et l'enfant, baissé comme pour jouer, émergea toute rose de l'autre côté. Elle se tenait là avec sa toute petite chemise de nuit et sa très grande candeur. Ses pieds étaient roses et ses cheveux d'or brillaient. Elle avait un air intensément grave et jamais encore je n'avais ressenti de telle façon l'impression de perdre un avantage récemment acquis. Cet avantage dont le frisson vainqueur avait été si prodigieux que lorsque j'eus compris qu'elle m'adressait ce reproche, « Méchante que vous êtes, où avez-vous été ?» Au lieu d'accuser son indiscipline, c'était moi qui me trouvais sur la sellette et qui donnais des explications. D'ailleurs, ses propres explications à ce sujet étaient pleines de la simplicité la plus charmante et la plus animée. Elle s'était soudainement rendue compte que je n'étais plus là et avait sauté de son lit pour voir ce que j'étais devenu. Saisie de joie en la revoyant, je tombai sur une chaise, sentant pour la première fois un peu de faiblesse, et elle courut gentiment jusqu'à moi, grimpant sur mes genoux, livrant à la pleine lumière de la bougie son merveilleux petit visage encore gonflé de sommeil. Je me vois, fermant les yeux un instant, exprès, volontairement, devant l'excès de beauté que me versaient ses prunelles bleues. « Vous cherchiez à me voir à travers la fenêtre, dis-je ? Vous pensiez que je me promenais dans le jardin ? Eh bien, vous savez, je pensais qu'il y avait quelqu'un. » Elle me décocha cette phrase toute souriante, sans broncher. Ah, comme je la regardais. Et avez-vous vu quelqu'un? Ah non, répliqua-t-elle. Privilège de l'inconséquence enfantine, elle semblait en être presque fâchée, bien qu'à sa légère accentuation du non se mêlât une douceur prolongée. À ce moment, et dans mon état nerveux, j'étais convaincu qu'elle mentait et je fermai les yeux de nouveau, dans mon trouble d'avoir à choisir parmi les 3 ou 4 réponses qui me venaient à l'esprit. L'une me tenta un instant, avec une force si singulière, que pour y résister, je serrai ma petite fille d'une étreinte furieuse, qu'elle subit, d'une façon surprenante, sans un cri ou un signe de frayeur. Pourquoi ne pas m'expliquer avec elle et en finir? Pourquoi ne pas lui lancer tout en plein visage le ravissant et lumineux petit visage. Vous voyez, vous ne pouvez nier que vous voyez. Vous soupçonnez déjà que je le crois. Alors, pourquoi ne pas vous confesser franchement, de sorte qu'au moins nous puissions porter le secret ensemble? Et, peut-être, dans l'étrangeté de notre destin, découvrir où nous en sommes et ce que cela signifie. Hélas, cette sollicitation tomba comme elle était venue. Si j'y avais immédiatement succombé, eh bien, je me serais épargné ce que vous verrez. Au lieu de succomber, je sautai de nouveau sur mes pieds, regardai son lit et m'engageai dans un lamentable juste milieu. Pourquoi avez-vous tiré les rideaux pour me faire croire que vous étiez encore là? Flora réfléchit candidement, puis, avec son divin petit sourire, parce que je n'aime pas vous faire peur. Mais si, selon votre idée, j'étais sorti. Elle refusa absolument de se laisser troubler. Elle regardait la flamme de la bougie comme si la question était aussi hors de propos, ou tout au moins aussi impersonnelle, que de savoir quoi mettre au corbillon ou combien font 9 fois 9. Oh, répondit-elle enfin, avec un bon sens inattaquable, vous saviez bien que vous pouviez revenir d'un moment à l'autre, ma bonne, et c'est ce que vous avez fait. Et peu après, lorsqu'elle se fut recouchée, je dus, pour lui donner la preuve de l'utilité de mon retour, demeurer assise presque sur elle, en lui tenant la main. Vous pouvez vous représenter ce que furent mes nuits à partir de ce jour. Il m'arrivait fréquemment de rester debout jusqu'à je ne sais quelle heure. Je saisissais les moments où l'enfant dormait, à n'en point douter, pour me glisser dehors et parcourir silencieusement le corridor. J'allais même jusqu'à l'endroit où j'avais rencontré Quint la dernière fois. Mais je ne l'y rencontrai plus jamais, et aussi bien, je puis dire tout de suite, que je ne le vis plus jamais dans la maison. Je faillis, cependant, rencontrer sur l'escalier une autre aventure. Il m'arriva une fois, tandis que d'en haut j'y plongeais mes regards, de reconnaître la présence d'une femme assise sur l'une des dernières marches. Elle me tournait le dos. Son corps plié en deux et sa tête dans ses mains avait l'attitude de la douleur. Je n'étais là que depuis un instant, quand elle disparut sans me regarder. Malgré cela, je savais exactement quel affreux visage elle aurait pu montrer, et je me demandais si, me trouvant au-dessous d'elle au lieu d'être au-dessus, j'aurais marché à sa rencontre avec le même sang-froid que j'avais déployé dernièrement envers Quint. Ah, les occasions de montrer son sang-froid ne manquaient pas. La 11e nuit après ma rencontre avec ce monsieur, je les comptais maintenant, j'eus une alerte qui faillit dépasser mes forces. Ce fut vraiment par sa qualité particulière d'inattendu le bouleversement le plus violent que j'eusse encore éprouvé. C'était justement la première nuit de cette période où, lassé de mes veilles répétées, j'avais cru qu'il m'était loisible de me coucher à mon ancienne heure sans être taxé de négligence. Je dormis immédiatement et, ainsi que je le sus plus tard, jusqu'à 1 heure environ. Mais, après m'être réveillé, je m'assis soudainement sur mon lit aussi éveillé que si quelqu'un était venu me secouer. J'avais laissé une lumière allumée, elle était éteinte, et je sentis en moi la certitude que c'était Flora qui l'avait soufflée. Cela me jeta en bas de mon lit, et, dans l'obscurité, j'allais droit jusqu'au sien, je m'aperçus qu'elle l'avait quitté. Un regard vers la fenêtre m'éclaira davantage, et une allumette que je frottais compléta le tableau. L'enfant s'était levé une fois de plus, cette fois-ci en soufflant la lumière, et de nouveau, soit pour regarder quelque chose, soit pour répondre à quelqu'un, s'était blotti sous le store et guettait dans la nuit. Qu'elle fût maintenant en train de voir quelque chose, ce qui n'avait pas eu lieu la dernière fois, je m'en étais assuré, me fut prouvé par le fait que rien ne la dérangea, ni la lumière que j'avais rallumée, ni les mouvements précipités avec lesquels je passais mes pantoufles et m'enveloppais d'un manteau. Cachée, protégée, absorbée, elle s'appuyait évidemment sur le rebord de la fenêtre, laquelle s'ouvrait en dehors et se livrait tout entière. Une grande lune paisible lui venait en aide et ça avait été une raison de plus pour rater ma décision. Elle était face à face avec l'apparition que nous avions rencontrée près du lac et pouvait communiquer avec elle comme elle n'avait alors pas pu le faire. Quant à moi, il me fallait maintenant atteindre à travers le corridor, sans déranger l'enfant, une autre fenêtre avec la même vue. Je gagnai la porte sans être entendu, je sortis, la fermai, et de l'autre côté, j'écoutais si quelque son se faisait entendre. Tandis que j'étais là, dans le couloir, mes yeux tombèrent sur la porte de son frère, qui n'était qu'à 10 pas, et qui, d'une manière inexprimable, éveillait de nouveau en moi cette étrange impulsion que j'ai appelée ma tentation. Qu'arriverait-il si j'entrais tout droit et allais à sa fenêtre à lui? Si, me risquant à dévoiler le motif de ma conduite à sa stupéfaction de gamin, je me trouvais jeté le lasso de mon audace à travers le reste du mystère. J'étais possédé de cette idée au point de m'avancer jusqu'à son seuil. Là, je m'arrêtais de nouveau. L'oreille tendue à l'extrême limite de mes forces, je me figurais des choses prodigieuses. Je me demandais si son lit aussi était vide, et lui aussi secrètement au guet. Cela dura une minute silencieuse et profonde, à l'expiration de laquelle l'impulsion m'avait abandonné. Il était tranquille. Il pouvait être innocent. Le risque était monstrueux. Je me détournai. Oui, certes, il y avait une figure au milieu des parterres, une figure qui rôdait pour obtenir un regard, un visiteur auquel Flora répondait. Mais ce visiteur n'avait pas affaire à mon garçon. De nouveau, j'hésitais, mais pour d'autres raisons, et seulement quelques secondes, mon choix était fait. Les chambres vides ne manquaient pas à Bly, toute la question était de choisir la bonne. Tout à coup, je me rendis compte que la meilleure était la chambre d'en bas, encore assez élevée au-dessus des jardins, et située dans cet angle massif de la maison que j'ai désigné sous le nom de vieille tour. C'était une grande chambre carrée, meublée avec pompe en chambre à coucher, que ses dimensions extravagantes rendaient si incommode qu'on ne l'avait pas occupée depuis des années. Mais toujours entretenue par Mrs. Cross, elle était dans un ordre merveilleux. Je l'avais souvent admirée et j'en connaissais la disposition. Après avoir dominé la petite angoisse que me causa la première bouffée d'air froid, je traversai la chambre abandonnée pour aller tout tranquillement déverrouiller l'un des volets intérieurs. Ceci fait, je relevai le store sur la vitre sans bruit, et y appliquant mon visage, il me fut facile, l'obscurité de dehors étant beaucoup moins profonde que celle de la chambre, de constater que la place était bien choisie. Ensuite, je vis quelque chose de plus. La lune rendait la nuit extraordinairement claire, et me laissa voir, sur la pelouse, une personne, diminuée par l'éloignement, qui se tenait immobile et comme fascinée, regardant le coin où j'étais apparu, et non pas tant vers moi que vers quelque chose qui, apparemment, était au-dessus de moi. Il était clair que quelqu'un était là, quelqu'un sur la tour. Mais la présence sur la pelouse n'était pas le moins du monde celle que j'avais soupçonnée, et à la rencontre de laquelle je me précipitais avec une telle certitude. Cette présence sur la pelouse, je me sentis défaillir à le constater, c'était le malheureux petit Miles lui-même. Chapitre 12. Ce ne fut que plus tard, dans la journée du lendemain, que je parlai à Mrs. Cross, car le soin que je mettais à ne pas perdre mes élèves de vue me rendait difficile les entretiens privés avec elle. D'autant plus que chacune de nous sentait la nécessité de ne provoquer, tant chez les domestiques que chez les enfants, aucun soupçon d'une secrète agitation ou de la poursuite d'un mystère. Rien que son aspect paisible me donnait une grande sécurité à ce sujet. Son visage reposé ne révélait rien à personne de mes horribles confidences. Elle me croyait complètement, j'en étais sûr. Si elle ne l'eût fait, je ne sais ce que je serais devenu, car je n'aurais pu seul supporter une telle épreuve. Mais elle rendait un magnifique témoignage à cette bénédiction qu'est l'absence d'imagination. Et ne voyant dans les enfants que leur charme et leur beauté, leur aspect heureux et leur intelligence, les causes de mon souci ne lui étaient pas directement sensibles. Si la moindre trace d'abattement ou de flétrissure se fût révélée chez les petits, sans doute son trouble eût égalé le leur, en sachant la source malsaine. Mais dans l'état actuel des choses, je sentais, tandis qu'elle les surveillait, ses gros bras blancs croisés et la sérénité répandue sur toute sa personne, qu'elle remerciait le Seigneur de ce que, ses trésors fussent-ils en miettes, les morceaux au moins en seraient encore bons. La flamme de la fantaisie se transformait chez elle en un paisible feu de foyer, et je commençais à m'apercevoir qu'à mesure que le temps marchait sans nouvel incident, croissait en elle la conviction que nos jeunes oiseaux étaient bien capables de se tirer d'affaire tout seuls, et sa majeure sollicitude s'appliquait au triste cas de leurs mandataires et gardiennes. C'était pour moi une réelle simplification. Je pouvais bien m'engager à ce que mon visage ne révélât rien, mais ça aurait été un gros souci de plus que d'avoir à me préoccuper du sien. À l'heure dont je parle, cédant à mes instances, elle m'avait rejointe sur la terrasse, où, dans cette saison plus avancée, le soleil était maintenant agréable, et nous nous y étions assises ensemble, tandis que devant nous, à une certaine distance cependant et à portée de notre voix, les enfants allaient et venaient d'une humeur si facile. Ils marchaient lentement, à l'unisson l'un de l'autre, sur la pelouse qui s'étendait à nos pieds, lui lisant tout haut un livre de contes, un bras autour de sa sœur, comme pour l'avoir bien à soi. Mrs. Cross les observait avec une placidité sincère. Puis je perçus chez elle, bien que réprimée, cette inclinaison mentale avec laquelle elle se penchait vers moi pour obtenir une vue de l'envers de la tapisserie. j'avais fait d'elle le réceptacle de choses à faire frémir. Mais sa connaissance bizarre de ma supériorité, tant à cause de mes talents qu'à cause de ma situation, se révélait dans la patience qu'elle témoignait à ma peine. Elle présentait proprement son esprit à mes confidences, comme si, eussé-je désiré composer un bouillon de sorcière et le lui offrir avec assurance, elle m'eût tendu une belle saucière blanche. Telle elle était, exactement, quand, dans mon récit des événements de la nuit, j'en arrivais à la réponse que m'avait faite Miles, lorsqu'après l'avoir vue à une heure aussi phénoménale, au lieu même où, pour ainsi dire, il était actuellement, j'étais descendu le chercher. Je m'étais décidé à prendre ce moyen plutôt qu'un autre plus brillant, mettant au-dessus de tout la nécessité de n'alarmer personne de la maison. Je lui avais déjà laissé entendre mon peu d'espoir d'arriver, en dépit de sa réelle sympathie, à lui faire saisir mon impression devant la magnifique inspiration avec laquelle, lorsque nous fûmes rentrés à la maison, le gamin accueillit mon défi, enfin nettement articulé. Aussitôt que j'étais apparu au clair de lune sur la terrasse, il s'était avancé vers moi sans hésiter. Je lui avais pris la main sans rien dire. Je l'avais mené à travers l'obscurité, le long de cet escalier où Quint avait rôdé, tout affamé de sa présence, le long du couloir où j'avais écouté et tremblé, et ainsi jusqu'à sa chambre désertée. Pas un son, chemin faisant, n'avait été proféré par aucun de nous. Et je m'interrogeais, oh combien je me dévorais, pour savoir si dans son effrayant petit esprit, il cherchait une explication qui fût plausible et pas trop grotesque. Cela lui donnerait du mal, certainement. Et cette fois-ci, à l'idée de son réel embarras, un frémissement de triomphe courut dans mes membres. Le piège était habilement tendu à un gibier jusqu'ici vainqueur. Il ne pourrait plus affecter cette parfaite correction, ni même s'y essayer. Alors comment diable allait-il se tirer de là? À la vérité, en même temps que la pulsation passionnée de cette question, battait aussi dans mes veines la silencieuse angoisse de savoir comment diable je ferais moi aussi. Je me trouvais enfin affronté dans toute sa rigueur le risque que comportait, même encore maintenant, l'exécution de ma propre partie. De fait, je me rappelle que, tandis que nous pénétrions dans sa petite chambre, dont le lit n'était pas défait, et où la fenêtre ouverte, laissant librement passer les rayons de la lune, rendait la chambre si claire qu'il était inutile de frotter une allumette, je me rappelle comment, subitement, je défaillis, et me laissai tomber sur le bord du lit, vaincu par cette idée qu'il devait savoir maintenant combien vraiment il m'avait eu, comme on dit. Armé de sa vive intelligence, il ferait tout ce qu'il voudrait aussi longtemps que je continuerai de soutenir cette vieille tradition de la culpabilité des maîtres de l'enfance qui entretiennent des terreurs et des superstitions. Oui, il me tenait, on pouvait le dire, et dans un étau. Car qui m'absoudrait jamais, qui me sauverait de la corde, si par la plus légère allusion, j'introduisais, la première, un élément aussi atroce dans nos relations si normales? Non, non, vraiment, il était inutile d'essayer de faire entendre à Mrs. Grouse, presque autant que d'essayer de le traduire ici, combien, pendant notre duel rapide et amer, là, dans le noir, il éveilla en moi presque de l'admiration. Je fus naturellement pleine de douceur et de bonté. Jamais encore mes mains ne s'étaient posées avec autant de tendresse sur ses jeunes épaules, tandis que je m'appuyais à son lit. Je n'avais pas d'autre alternative que de lui poser la question, lui en poser une, du moins. Il faut me parler maintenant, me dire la vérité. Pourquoi êtes-vous sorti? Et que faisiez-vous dehors? Je vois encore son étonnant sourire, le blanc de ses yeux magnifiques, et l'éclat de ses dents briller dans le demi-jour. Si je vous le dis, comprendrez-vous? Mon cœur me battait dans la gorge. Allait-il me dire le pourquoi? La voix me manqua pour l'empresser. Je me rendis compte que ma seule réponse fut un vague et grimaçant hochement de tête. Il était la douceur même. Et tandis que je me tenais devant lui, en continuant ce malheureux hochement, il semblait plus que jamais un jeune prince de conte de fées. Oui, ce fut sa sérénité qui me donna du répit. Si vraiment il s'apprêtait à me faire sa confession, en aurait-il montré une pareille ? Eh bien, dit-il à la fin, tout exprès pour que vous fassiez ça, que, pour changer, vous pensiez du mal de moi. Jamais je n'oublierai la gentillesse, la gaieté avec laquelle il prononça ces mots, ni comment, pour les couronner, il se pencha et m'embrassa. Et ce fut la fin de tout. Je lui rendis son baiser, et tandis que je le serrais dans mes bras, il me fallut un effort prodigieux pour ne pas pleurer. Il me rendait compte de sa conduite exactement de la façon qui me permettait le moins de lui en demander davantage. Et je ne fis que confirmer mon acquiescement à ses paroles lorsque, ayant jeté un coup d'œil dans la chambre, je lui demandai « Alors vous ne vous étiez pas déshabillé ?» Je puis dire que, littéralement, à ce moment, il étincela dans la pénombre. « Pas du tout. Je veillais et je lisais. « Et quand êtes-vous descendu ?»« À minuit. » « Ah, quand je me mêle d'être mauvais, j'y vais franchement. » »« je vois, c'est tout à fait charmant. »« Mais comment pouviez-vous être sûr que je le saurais ?»« Oh, j'avais tout arrangé avec Flora. » Ses réponses m'arrivaient avec une prestesse. Elle devait se lever et regarder par la fenêtre. Et c'est ce qu'elle fit. C'était moi qui tombais dans le piège. Ainsi, elle vous a tracassé, et pour voir ce qu'elle regardait, vous avez regardé aussi, et vous avez vu. Tandis que vous, répliquai-je, vous attrapiez la mort à être dehors en pleine nuit. Il s'épanouissait tellement devant la réussite de son exploit qu'il pouvait bien se permettre d'en tomber radieusement d'accord. Sans cela, demanda-t-il, aurais-je été aussi méchant que je le désirais ? Et après un nouvel embrassement, l'incident, comme notre colloque, furent clos, sur ma reconnaissance formelle de toutes les réserves de sagesse qu'il avait dû amasser pour se permettre une pareille plaisanterie. Chapitre 13. Mon impression particulière, je le répète, me parut le lendemain difficile à faire partager à Mrs. Gross, bien que je la fortifiasse d'une autre remarque qu'il m'avait faite avant que nous nous séparions. « Tout tient en quelques mots, lui dis-je, en six mots qui règlent la question. Pensez un peu à tout ce que je pourrais faire. » Voilà ce qu'il m'a lancé pour me prouver quel bon petit garçon il est. Il sait à fond ce qu'il peut faire. C'est de ça qu'il leur a donné une idée au collège. « Eh, Seigneur, comme vous avez changé !» s'écria mon ami. « Je n'ai pas changé du tout. J'explique les choses tout simplement. » Tous les quatre, vous pouvez en être sûrs, se rencontrent perpétuellement. Si l'une de ces dernières nuits, vous eussiez été avec l'un ou l'autre des enfants, vous auriez tout compris bien facilement. Plus j'ai observé, plus j'ai attendu, plus j'ai senti qu'à défaut d'autres preuves, leur silence systématique, à tous les deux, serait suffisant. Jamais rien ne leur a échappé, pas une allusion, pas une phrase commencée à propos de leurs anciens amis, pas plus que de la part de Miles à propos de son renvoi. Oui, oui. Nous pouvons nous asseoir tranquillement à les regarder. Ils peuvent, tant qu'il leur plaira, nous en faire accroire. Mais dans le moment même qu'ils prétendent être absorbés dans leur conte de fées, ils s'enfoncent dans la vision de ces morts qui reviennent à eux. « Il n'est pas du tout en train de lui faire la lecture, » déclarai-je. « Il parle d'eux. Ils disent des choses horribles. Je sais bien que je vous parais folle. C'est bien un miracle si je ne le suis pas. » À ma place, voyant ce que j'ai vu, vous le seriez devenu. Mais cela ne m'a rendu que plus lucide et m'a fait comprendre bien d'autres choses. Certes, ma lucidité devait sembler effrayante, mais les exquises créatures qui en étaient victimes, passant et repassant devant nous dans leur gracieux enlacement, donnaient à l'incrédulité de ma compagne un vigoureux appui. Et je vis combien elle s'y fiait, lorsque, sans broncher devant le feu de ma passion, elle continua de les couvrir de son même regard. Quelles autres choses avez-vous comprises? Mais toutes celles qui m'ont enchanté, fasciné, et cependant au fond, je le vois si étrangement à présent, qui m'avaient mystifié et troublé. Leur beauté plus qu'humaine, leur sagesse absolument anormale. Tout cela n'est que jeu, continuai-je, c'est une manière d'être, une affectation et une fraude. De la part des petits chéris, qui ne sont guère encore que de ravissants bébés. Mais oui, tout insensé que cela paraisse. Le fait même de l'exprimer m'aida vraiment à analyser mon impression, à remonter jusqu'à sa source et reconstituer le tout. Ce n'était pas qu'ils fussent sages, ils étaient absents, voilà tout. S'il a été facile de vivre avec eux, c'est qu'ils vivent d'une existence à part de la nôtre. Ils ne sont pas à moi, à nous, ils sont à lui et à elle. À Quint et à cette femme? À Quint et à cette femme. Ils veulent les reprendre. Ah, comment les regarda alors Mrs. Krause. Mais pourquoi? Pour l'amour du mal qu'en ces jours terribles, le couple leur a inculqué. Leur insuffler encore et toujours ce mal. Soutenir et poursuivre leur œuvre démoniaque. Voilà ce qui ramène les autres ici. Ah là là, dit mon ami, tout bas. L'exclamation était populaire, mais, involontairement, elle me révélait son acquiescement à cette preuve nouvelle qu'il avait dû se passer ici un drame pendant les mauvais jours. Car il y avait eu des jours pires que ceux-ci. Rien ne pouvait me convaincre davantage que ce simple assentiment, accordé par son expérience à la dépravation, quelque profonde que je pusse le soupçonner, de notre père de canaille. La soumission de sa mémoire se révéla dans ces mots qu'elle laissa échapper. Pour des fripouilles, c'en était. Mais que peuvent-ils faire maintenant? Poursuivit-elle. Faire? Répétai-je comme un écho, et si fort que Miles et Flora, passant au loin, s'arrêtèrent un moment et nous regardèrent. Vous ne trouvez pas qu'ils en fassent assez? Demandai-je d'une voix plus basse, après que les enfants qui nous avaient souri et fait signe de la main eurent repris leur comédie. Un moment, elle nous fascina. Puis je lui répondis, « Ils peuvent nous les détruire. » Cette fois, ma compagne se tourna vers moi, mais son appel resta silencieux, et le silence me rendit plus explicite. Ils ne savent pas bien encore comment faire, mais ils essaient de toutes leurs forces. On ne les voit encore qu'au-delà d'une chose ou d'une autre, et d'un peu loin, dans des endroits bizarres et des lieux élevés, au sommet des tours, sur les toits des maisons, à l'extérieur des fenêtres, de l'autre bord des étangs. Mais, des deux côtés, un dessein est à l'œuvre pour raccourcir la distance et surmonter l'obstacle. Ainsi, le triomphe des tentateurs n'est qu'une question de temps. Ils n'ont qu'à continuer leurs dangereuses suggestions. Et les enfants iront et périront dans l'entreprise. Mrs. Krause se leva lentement, et j'ajoutai, prise de scrupules, à moins, bien entendu, que nous ne l'empêchions. Debout, devant moi toujours assise, elle tentait visiblement d'analyser la situation. C'est leur oncle qui doit empêcher ça. Il faut qu'il les emmène. Et qui l'en persuadera? Elle m'avait semblé scruter l'horizon, mais pencha alors vers moi un visage un peu sot. Vous, mademoiselle. En lui écrivant que sa maison est empoisonnée et que son neveu et sa nièce sont fous? Mais s'ils le sont, mademoiselle. Si je le suis moi-même, voulez-vous dire. Ce sont de charmantes nouvelles à lui envoyer, de la part d'une personne qui jouit de sa confiance, et dont la première raison d'être est de lui éviter tout ennui. Mrs. Krause, songeuse, suivait les enfants des yeux. Oui, ils n'aiment pas les ennuis. Ça a été la principale raison pour laquelle ces monstres ont pu le tromper si longtemps. Sans doute, bien que tout de même il lui ait fallu une terrible indifférence. Comme je ne suis pas un traître, moi, en tout cas, je ne le tromperai pas. Après un moment, ma compagne, pour toute réponse, s'assit de nouveau et me saisit le bras. « En tout cas, appelez-le à vous. » Je la regardai stupéfaite. « À moi ?» J'eus une peur soudaine de ce qu'elle serait capable de faire. « Lui ?» « Il devrait être ici. Il devrait nous aider. » Je me levai d'un bond et je crois lui avoir montré une plus sincère figure que jamais. « Vous me voyez l'invitant à me faire une visite ?» Non, les yeux dans les yeux, évidemment, elle ne me voyait pas. Et même, au lieu de cela, comme une femme qui sait lire dans une autre femme, elle vit ce que je voyais moi-même, sa dérision, son divertissement, son mépris pour mon manque de résignation à la solitude, et la belle histoire présentée de façon à attirer son attention sur mes attraits négligés. Il ne savait pas, ni personne au monde, combien j'avais été fier de le servir et d'observer fidèlement notre contrat. Mais néanmoins, elle estima à sa juste mesure, je crois, l'avertissement que je lui donnais. Si jamais vous perdiez la tête au point d'avoir recours à lui en ma faveur, elle fut réellement effrayée. Alors, mademoiselle, je vous quitterai sur l'heure, lui et vous. Chapitre 14. C'était très bien d'avoir pu garder le contact avec eux, mais leur parler se révéla autant que jamais un effort au-dessus de mes forces. Vu de près, la situation d'aujourd'hui me présentait des difficultés aussi insurmontables que les précédentes. Cette situation dura un mois, avec de nouvelles aggravations, des traits particuliers, dont le plus saisissant, qui s'accentua de jour en jour, était l'ironie, consciente et légère, de mes élèves. Ce n'était pas, j'en suis aussi certaine aujourd'hui qu'alors, l'effet seulement de mon infernale imagination. Il était facile de discerner qu'ils étaient au courant de mes embarras, et que nos étranges relations transformaient, en une certaine manière, l'atmosphère dans laquelle nous vivions, et cela dura longtemps. Je ne veux pas dire qu'ils clignaient de l'œil ou qu'ils fissent rien de vulgaire, car pour cela il n'y avait rien à craindre d'eux. Ce que je veux dire, du moins, c'est que l'élément innommé et insaisissable grandissait entre nous, aux dépens de tout le reste, et que pour éviter avec tant de bonheur les occasions scabreuses, il fallait entre nous un bien fort consentement tacite. Les choses se passaient comme si, par moments, nous arrivions en vue d'objets devant lesquels il nous fallait tourner court, abandonnant subitement des routes qu'on s'apercevait être des impasses, fermant, avec un bruit qui attirait nos regards les uns sur les autres, car, comme tous les bruits, c'était toujours plus fort que nous ne l'aurions voulu, des portes indiscrètement ouvertes. Tous les chemins mènent à Rome, et à certains moments, il semblait que tous les sujets d'étude et tous les thèmes de conversation frôlassent le terrain défendu. Le terrain défendu, c'était, d'une façon générale, le retour des morts sur terre, et tout spécialement la discussion de ce qui peut survivre dans la mémoire d'amis perdus par de jeunes enfants. Il y avait des jours où j'aurais juré que l'un poussait l'autre d'un coup de coude invisible et lui disait « Elle croit qu'elle y est, cette fois-ci, mais elle n'y arrivera pas. » Y être aurait été de se permettre, par exemple, une fois par hasard, une allusion à la dame qui les avait préparés à ma direction. Ils avaient un appétit insatiable et charmant pour certaines anecdotes de mon existence, dont je les avais régalées maintes et maintes fois. Ils savaient tout ce qui m'était jamais arrivé, possédaient dans les moindres détails l'histoire de mes plus petites aventures, ainsi que de celles de mes frères, de mes sœurs, du chien et du chat de la maison, aussi bien que beaucoup d'autres sur les manies originales de mon père, le mobilier et la disposition de notre demeure, et la conversation des vieilles femmes de mon village. En comptant tout, il y avait pas mal de choses à propos desquelles on pouvait bavarder, pourvu que l'on allât vite, qu'on ne s'attardât pas, et que l'on sût instinctivement quand et où il fallait moduler. Ils avaient un art particulier pour tirer les ficelles de mon imagination ou de ma mémoire. Et quand toutes ces circonstances me reviennent, il me semble que rien ne me donnait davantage l'impression que j'étais guetté d'un abri soigneusement caché. En tout cas, ce n'était que lorsqu'il s'agissait de ma propre vie, de mon propre passé et de mes propres amis que nous nous sentions à l'aise. État de choses qui les amenaient parfois sans nécessité à évoquer par sociabilité pure des souvenirs puérils. J'étais invité, sans qu'une liaison d'idées nous y eût amenés, à répéter le mot célèbre de Gros-Pierre, ou à confirmer des détails déjà connus sur l'intelligence du poney du presbytère. C'était tantôt à de semblables moments, tantôt à d'autres, tout à fait différents, que mon épreuve, ainsi que je l'ai appelée, me devenait, avec la tournure actuelle des événements, plus amer et plus difficile. Le fait que les jours s'écoulaient sans m'apporter de nouvelles rencontres aurait dû, semble-t-il, verser quelque apaisement à mes nerfs surexcités. Depuis la légère émotion de cette seconde nuit, où, du palier, j'avais reconnu la présence d'une femme sur la première marche d'en bas, je n'avais rien vu, dehors ou dedans la maison, qu'il eût mieux valu ne pas voir. Je m'étais attendu à voir Quint, à plus d'un tournant, et maintes fois, la situation, simplement par je ne sais quelle atmosphère sinistre, m'avait paru propre à une apparition de Miss Jessel. L'été avait tourné, l'été était passé, l'automne s'était abattu sur Bly, y éteignant à demi notre belle lumière. Ce beau lieu, sous le ciel gris, avec ses corbeilles flétries, ses espaces dénudés et ses feuilles mortes éparses, paraissait un théâtre où la pièce est finie de jouer, quand les programmes froissés jonchent le sol. Je retrouvais exactement l'état de l'atmosphère, les nuances de sonorité et de silence, l'indicible, l'inexprimable impression d'être arrivé au moment voulu, tout un ensemble de circonstances qui me rendaient de nouveau, assez longtemps pour que je la puisse noter, cette sensation de médium où j'étais plongé, ce beau soir de juin, lorsque Quint m'était apparu pour la première fois, dans laquelle aussi, après l'avoir vu derrière la vitre, je l'avais vainement cherché dans les taillis environnants. Oui, je reconnaissais les signes, les présages, je reconnaissais le temps, le lieu. Mais tout demeurait vide et inanimé, et moi-même indemne, respecté, si l'on peut dire respecté une jeune femme dont la sensibilité a été, non pas amoindrie, mais exaspérée, de la façon la plus extraordinaire. Dans ma conversation avec Mrs. Gross, à propos de cette horrible scène de Flora près de l'étang, je l'avais rendue perplexe en lui disant que maintenant, je regretterais bien plus de perdre mon étrange pouvoir que de le conserver. Et je lui avais longuement expliqué l'idée qui me dominait. Que les enfants vissent les spectres ou non, puisque d'ailleurs il n'était pas encore définitivement prouvé qu'ils les vissent, je préférais infiniment, pour leur sauvegarde, courir le risque à moi seul. J'étais prêt au pire. Ce qui m'avait alors transpercé comme d'un poignard était la pensée que mes yeux pussent être scellés tandis que les leurs eussent été grands ouverts. Eh bien, mes yeux étaient scellés à présent, il le semblait bien. Conclusion pour laquelle il paraissait blasphématoire de ne pas remercier Dieu. Hélas, il y avait une difficulté à cela. Je l'eusse remercié de toute mon âme, n'eût été la conviction, égale à cette reconnaissance, que mes enfants avaient un secret. Comment aujourd'hui retracer les étranges étapes de mon obsession? À certains moments, quand nous étions ensemble, j'aurais pu jurer que, littéralement, en ma présence mais sans que j'en eusse la sensation directe, il recevait des visiteurs qu'il connaissait et accueillait cordialement. À ces moments-là, si je n'eusse été retenu par la crainte que le remède ne fût pire que le mal qu'il voulait combattre, mon exaltation se serait donnée libre cours. « ils sont là, petit malheureux !» me serais-je écrié. « Vous ne pouvez pas le nier maintenant. » Mais les petits malheureux niaient tout avec les forces unies de leur sociabilité et de leur tendresse, dans les abîmes cristallins desquels, tel l'éclair d'une écaille de poisson dans le torrent, scintillait ironiquement l'avantage qu'ils avaient sur moi. À la vérité, mon trouble avait été plus profond que je ne croyais, cette nuit où, à la recherche sous les étoiles de Peter Quint ou de Miss Jessel, j'avais découvert l'enfant sur le repos duquel j'étais chargé de veiller, et qui était rentré avec moi, conservant son même regard si doux. Ce doux regard qu'il avait dès le premier moment et sur le lieu même, dirigé tout droit sur moi. Ce doux regard levé au ciel, avec lequel, des créneaux qui nous dominaient, se plaisait à jouer la hideuse apparition de Quint. Pour un bouleversement, on peut dire que ma découverte à cette occasion en avait été un plus profond qu'aucun autre, et c'était essentiellement d'un état d'âme bouleversé que je tirais les conclusions présentes. J'en étais quelquefois harassé à un tel point que je m'enfermais pour répéter à haute voix. C'était à la fois un soulagement inexplicable et un renouvellement de désespoir, la scène qui me permettrait d'aborder le fond de la question. J'en approchais, tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, tout en parcourant ma chambre avec agitation, Mais toujours, au moment affreux d'articuler les noms propres, mon courage m'abandonnait. Tandis que les syllabes mouraient sur mes lèvres, je me disais que j'allais peut-être les aider à se former une image infâme si, en les prononçant, ces noms hideux, je violais l'instinctive délicatesse la plus rare que jamais sans doute eût connue salle d'étude. Quand je me disais « Eux ont assez de tact pour se taire, et toi, avec toute la confiance qu'on te témoigne, assez de vilenie pour vouloir parler. » Je me sentais devenir écarlate, et je me couvrais la figure de mes mains. Après ces scènes secrètes, je bavardais plus que jamais, pleine de volubilité, jusqu'au moment où survenait un de nos prodigieux et tangibles silences. Je ne puis les qualifier autrement. Une étrange sensation d'étourdissement, d'entraînement, je cherche les termes justes, enveloppée dans un calme, une suspension absolue de toute manifestation de vie. Elle n'avait pas de rapport avec le plus ou moins de tapage que nous pouvions être en train de faire. Et je pouvais l'apercevoir à travers n'importe quel éclat de gaieté, quelle récitation plus rapide, ou quel accord bruyant du piano. Alors, les autres, les intrus étaient là. Bien qu'ils ne fussent pas des anges, ils passaient, comme on dit en France, me faisant frémir, tant que durait leur présence, de la crainte qu'ils n'adressassent à leur jeune victime quelque message plus infernal ou quelque vision plus ardente que ce qu'ils avaient jugé assez bon pour moi. L'idée qu'il m'était le plus difficile d'éloigner était celle si cruelle que, quoique j'eusse vu, Miles et Flora voyaient davantage. Chose terrible, impossible à deviner, et qui surgissait des affreux moments de leur vie commune d'autrefois. De telles choses, naturellement, laissaient dans l'atmosphère pour quelque temps comme une glace superficielle que nous nous refusions à reconnaître, vociférant à l'unisson. Et tous trois, après maintes répétitions, avions acquis un tel entraînement que chaque fois, pour indiquer la fin de l'incident, nous exécutions automatiquement les mêmes mouvements. En tout cas, il était frappant que les enfants vinssent régulièrement, sans la moindre raison, m'embrasser comme des fous, et ne manquassent jamais l'un ou l'autre de poser la précieuse question qui nous avait fait traverser plus d'un passage périlleux. « Quand pensez-vous qu'il viendra ? Ne croyez-vous pas que nous devrions lui écrire ?» Rien, l'expérience nous l'avait appris, ne valait cette demande pour chasser tout embarras. Il, bien entendu, c'était l'oncle de Harley Street, et nous vivions dans la convention, abondamment exprimée, qu'il pouvait à tout instant arriver et se mêler à notre cercle. Il était impossible de donner moins d'encouragement à une doctrine qu'il ne l'avait fait à celle-ci, mais si nous n'avions pas eu le soutien de cette doctrine, nous nous serions privés, les uns et les autres, de quelques-unes de nos plus belles mystifications. Il ne leur écrivait jamais. C'était peut-être égoïste, mais cela faisait partie de la confiance flatteuse qu'il avait placée en moi. Car la façon dont un homme rend à une femme son hommage le plus flatteur a tendance à n'être que l'accomplissement souriant d'une des lois sacrées de son confort personnel. Ainsi, j'étais persuadé que je restais fidèle à ma promesse de ne jamais le troubler en donnant à entendre à nos jeunes amis que leurs lettres n'étaient que d'aimables exercices littéraires. Elles étaient trop jolies pour être mises à la poste. Je les conservais pour moi. Je les possède encore toutes à cette heure. Cette règle que je m'étais imposée ne servait qu'à augmenter l'effet satirique de leur perpétuelle supposition qu'à tout instant ils pouvaient apparaître au milieu de nous. C'était exactement comme si nos jeunes camarades se rendaient compte du point auquel une telle visite, plus que tout le reste, aurait été embarrassante pour moi. D'ailleurs, regardant en arrière, rien ne me paraît plus extraordinaire que le simple fait de n'avoir jamais perdu patience avec eux, en dépit de mes nerfs tendus et de leur triomphe latent. Adorable, oui, vraiment, ils devaient l'être, je le sens maintenant, puisqu'en ces jours passés, je ne les haïssais point. Cependant, si le soulagement ne fut point survenu, mon exaspération à la longue ne m'eût-elle pas trahi? Ceci importe peu, car le soulagement vint. Je le nomme soulagement, bien que ce ne fût que celui que procure la rupture d'une corde trop tendue, ou le coup de tonnerre, un jour d'orage. Enfin, au moins, c'était un changement. Et il arriva comme un éclair. Chapitre 15. Je me rendais à l'église un certain dimanche matin avec Miles à côté de moi. Sa sœur, bien en vue, marchait en avant avec Mrs. Gross. C'était un jour clair et sec, le premier de ce genre depuis quelque temps. Il avait gelé légèrement pendant la nuit, et l'air automnal, étincelant et vif, rendait les sonneries de cloches et de l'église presque gaies. Par quelle suite bizarre de mes pensées, en arrivais-je, à ce moment, à me dire que mes élèves me montraient vraiment une obéissance dont je ne pouvais qu'être frappé, aussi bien que reconnaissante. Pourquoi ne se révoltaient-ils jamais contre mon inexorable, ma perpétuelle société? Je ne sais quoi m'avait fait comme toucher du doigt ce fait que, pour ainsi dire, j'avais cousu le gamin à mes jupes, et que dans la manière dont mes compagnons marchaient au pas militaire devant moi, je pouvais sembler me prémunir contre quelque rébellion. J'étais comme un geôlier dont l'œil surveille les surprises et les évasions possibles. Mais tout ceci, je veux dire leur magnifique petite condescendance, appartenait justement à l'ensemble des faits les plus profondément mystérieux de notre aventure. Soigneusement habillé de sa tenue du dimanche, par les soins du tailleur de son oncle à qui on avait laissé les coudées franches, et qui savait apprécier la valeur d'un gilet élégant et la tournure aristocratique de son petit client, Miles donnait une telle impression d'indépendance, de droit qu'exigeait son sexe et sa situation, qu'eût-il réclamé sa liberté, je n'aurais rien eu à dire. Par la plus étrange des coïncidences, j'étais en train de me demander comment je pourrais lui résister, lorsque, à ne pouvoir s'y tromper, la révolution se produisit. Je l'appelle révolution parce que je vois maintenant comment, avec les mots qu'il prononça, le rideau se leva sur le dernier acte de mon terrible drame, et dès lors la catastrophe se précipita. « Dites-moi, ma chère, débuta-t-il gentiment, quand diable vais-je retourner au collège ?» Transcrite ici, la phrase paraît assez inoffensive, d'autant plus qu'elle était prononcée avec le timbre clair et caressant, grâce auquel ses intonations semblaient autant de roses négligemment jetées à son interlocuteur, surtout lorsque son interlocuteur était son éternelle institutrice. Elles avaient quelque chose de prenant, et de fait, je fus alors tellement saisi que je m'arrêtai court, comme si l'un des arbres du parc se fût abattu en travers de la route. Quelque chose de nouveau venait de surgir là, entre nous, et il se rendait parfaitement compte que je le comprenais, bien que pour ce faire, il n'eut pas besoin d'abandonner un atome de sa candeur et de sa séduction habituelle. Je sentais déjà, rien qu'en ne trouvant rien à lui répliquer immédiatement, qu'il jouissait de l'avantage gagné. J'étais si lente à trouver n'importe quoi à dire qu'il eut tout le temps, après une minute écoulée, de continuer, avec son sourire suggestif mais indulgent, « Vous savez, ma chère, que d'être toujours seule avec une dame, il avait toujours ce « ma chère » sur les lèvres, en s'adressant à moi, et rien ne pouvait exprimer plus exactement la nuance du sentiment que je désirais inspirer à mes élèves, que ce terme de tendre familiarité. C'était si librement respectueux. Mais, mon Dieu, comme je sentais qu'il me fallait maintenant peser mes paroles. Je me rappelle que, pour gagner du temps, je feignis de rire, et je me vis dans le beau visage qui m'observait, si vilaine et si bizarre. Et toujours avec la même dame, rétorquai-je. Il ne pâlit ni ne sourcilla. Tout était pratiquement dévoilé entre nous. Ah, bien sûr, elle est une charmante personne, une vraie dame. Mais, voyez-vous, je suis un garçon qui, eh bien, qui avance en âge. Je m'arrêtai un instant, le considérant avec quelle tendresse. Comme je me sentais perdu. Et encore aujourd'hui, je reste persuadé de cette petite idée qui vint me percer le cœur. Il le savait et s'en faisait un jeu cruel envers moi. Et vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas été rudement gentil, hein ? Je posai ma main sur son épaule, car bien que je sentisse qu'il eût été bien préférable de nous remettre en route, je n'en étais pas encore tout à fait capable. Non, je ne peux pas dire cela, Miles. Excepté juste cette nuit, vous savez. Cette seule nuit. Mais je ne pouvais pas regarder aussi droit que lui. Oui, quand je suis descendu, quand je suis sorti de la maison. Ah oui, mais j'ai oublié pour quelle raison vous aviez fait cela. Vous avez oublié pourquoi ? Il parlait avec la gentille exubérance qui anime les reproches des enfants. Mais c'était justement pour vous montrer que je pouvais le faire. Oh oui, vous pouviez bien le faire. Et je pourrais le faire encore. Je constatais qu'après tout, il m'était possible de ne pas perdre absolument la tête. Certainement, mais vous ne le ferez pas. Non, pas encore cela. Ce n'était rien du tout. Rien du tout, dis-je. Mais marchons maintenant. Il reprit sa marche auprès de moi, passant son bras sous le mien. Alors, quand donc dois-je retourner au collège ? Je pris mon air le plus soucieux en réfléchissant à sa demande. Étiez-vous très heureux au collège ? Il réfléchit un instant. Oh, je me trouve assez bien partout. Eh bien alors, ma voix tremblait malgré moi, si vous êtes aussi content ici qu'ailleurs. Ah, mais ce n'est pas tout. Bien entendu, vous savez un tas de choses. Mais vous voulez dire que vous en savez presque autant, risquai-je, tandis qu'il s'arrêtait. Je ne sais pas la moitié de ce que je voudrais savoir, avoua Miles honnêtement. Mais ce n'est pas tant cela. Qu'est-ce que c'est alors ? Eh bien, je voudrais voir davantage de la vie. Je vois, je vois. Nous étions arrivés en vue de l'église et de plusieurs personnes, parmi lesquelles quelques membres de la domesticité de Bly qui s'y rendaient et se groupaient près de la porte pour nous voir entrer. Je hâtai le pas. Je voulais y arriver avant que la question ne devint trop embarrassante. Je savais bien qu'une fois là, il aurait à garder le silence pendant une heure. Je pensais avec envie à l'ombre relative de notre banc clos et au secours presque spirituel que m'apporterait le coussin où s'appuieraient mes genoux. Il me semblait littéralement que je lui disputais une course désespérée, mais je sentis qu'il arrivait bon premier quand, avant d'entrer dans le cimetière qui précédait l'église, il me jeta ces mots. « J'ai besoin de mes pareils. » Cela me fit littéralement bondir. « Il n'y a guère de vos pareils, Miles, » dis-je en souriant. « Excepté la petite Flora chérie, peut-être. »« Vraiment, vous me comparez à un bébé qui est une fille ?» Je me sentais singulièrement désarmé. « Est-ce que vous n'aimez pas notre petite Flora ?»« Si je ne l'aimais pas, et vous aussi, si je ne l'aimais pas, » répéta-t-il en reculant comme pour prendre son élan, et cependant laissant sa pensée tellement inachevée qu'après avoir franchi la barrière, un autre arrêt, qu'il m'imposa par une pression de son bras sur le mien, était devenu inévitable. Mrs. Gross et Flora avaient pénétré dans l'église. Les autres fidèles avaient suivi, et pour l'instant, nous étions seuls parmi les vieilles tombes rustiques. Nous nous étions arrêtés, dans l'allée qui partait de la barrière, auprès d'une tombe basse et oblongue comme une table. « Eh bien, si vous ne nous aimiez pas ?» Il regardait les tombes, tandis que j'attendais sa réponse. « Eh bien, vous savez quoi ?» Mais il ne bougea pas, et présentement me servit quelque chose qui me fit m'asseoir brusquement sur la pierre, comme prise d'un besoin subit de repos. « Mon oncle pense-t-il ce que vous pensez ?» Je pris un temps bien marqué. « Comment savez-vous ce que je pense ?»« Ah, bien sûr, je ne le sais pas, car je m'aperçois maintenant que vous ne me le dites jamais. Mais je veux dire, le sait-il » ?»« Sait-il quoi, Miles ?»« Eh bien, ce que je fais. » Je me rendis rapidement compte que je ne pouvais faire à cette question aucune réponse qui ne comportât en quelque manière le sacrifice de mon patron. Cependant, je songeais que nous étions tous, à Bly, suffisamment sacrifiés pour que cette faute ne fût que vénielle. Je ne crois pas que votre oncle s'en soucie beaucoup. Miles, là-dessus, me considéra longuement. Et ne croyez-vous pas qu'on pourrait l'amener à s'en soucier ? Comment cela ? Mais s'il venait ici ? Et qui le fera venir ici ? Je le ferai, moi, dit l'enfant, avec un éclat et un accent de volonté extraordinaire. Il me lança encore un regard plein de cette même expression, puis marcha vers l'église et y entra seul. Chapitre 16. La scène se conclut d'elle-même par le fait que je ne le suivis point. C'était céder déplorablement à ses nerfs, mais m'en rendre nettement compte ne m'aida pas du tout à retrouver le calme. Je ne pouvais que rester là, assise sur ma tombe, et essayer, à travers les paroles prononcées par mon jeune ami, de deviner leur sens entier. Lorsque je fus parvenu à l'embrasser entièrement, j'avais aussi décidé de fournir comme prétexte à mon absence ma confusion de donner un tel exemple de retard à mes élèves et au reste de l'assemblée. Mais ce que je me redisais par-dessus tout était que Miles m'avait arraché un avantage, et qu'il en aurait justement la preuve dans cette maladroite absence. Il m'avait fait avouer que j'avais grande peur d'une certaine chose, et probablement il profiterait de cette crainte pour obtenir plus de liberté. La peur que j'éprouvais, c'était d'avoir à traiter de la question intolérable de son renvoi de l'école, puisque cela n'était, au fond, que la question des abominations qui s'y rattachaient. Que son oncle en arrivât à traiter de ces choses avec moi, c'était une solution qu'en elle-même j'eusse dû désirer maintenant. Mais il m'était tellement impossible d'en envisager la laideur et la peine que je me bornais simplement à remettre ma décision à plus tard et me contentais de vivre au jour le jour. L'enfant, à ma profonde confusion, était grandement dans son droit, et dans une situation à pouvoir me dire « Ou bien vous tirerez au clair avec mon tuteur cette mystérieuse interruption de mes études, ou bien vous cesserez de vous attendre à me voir mener auprès de vous une vie aussi anormale pour un garçon. » Ce qui était très anormal chez le garçon dont il s'agissait en particulier, c'était cette révélation soudaine qu'il avait à la fois conscience de la gravité de son cas et un plan pour le résoudre. C'est cela qui me bouleversait, qui m'empêchait d'entrer dans l'église. J'en faisais le tour, hésitante, inquiète. La réflexion déjà me venait qu'à ses yeux, je m'étais irrémissiblement découverte. Je ne pouvais donc plus rien réparer, et c'était un trop pénible effort que d'aller prendre la place auprès de lui sur le banc où nous nous serrions les uns contre les autres. Je le voyais plus que jamais, prêt à glisser son bras sous le mien et me tenir là pendant une heure, en étroit et silencieux contact avec son commentaire intime de notre conversation. Pour la première fois depuis mon arrivée, je souhaitais m'éloigner de lui. Je m'étais arrêté sous la haute fenêtre de l'est à écouter les chants religieux qui venaient de l'intérieur. Une impulsion me saisit qui, je le sentis, allait me dominer complètement, pour peu que je l'encourageasse. Je pouvais facilement mettre fin à mon épreuve en prenant la fuite. J'avais l'occasion sous la main. Personne n'était là pour m'arrêter. Je pouvais renoncer à toute l'affaire, y tourner le dos et m'échapper. Il n'y avait qu'à rentrer vite à la maison, laisser vide, pour ainsi dire, grâce à la présence à l'église de la plupart des domestiques, et à y effectuer mes préparatifs de départ. En somme, personne ne pourrait me blâmer si je m'enfuyais, poussé par le désespoir. À quoi bon me séparer d'eux maintenant, si je devais le retrouver à dîner? Il aurait lieu dans 2 heures. Alors, j'en avais la perception aiguë, mes jeunes élèves joueraient la comédie d'un innocent étonnement de ne pas m'avoir vu les suivre. Qu'avez-vous été faire, vilaine, méchante? Était-ce vraiment pour nous tourmenter et nous causer des distractions, vous savez, que vous nous avez abandonnés juste à la porte? Ces questions, je ne pouvais les affronter, ni, pendant qu'ils les posaient, leurs beaux yeux menteurs. Cependant, tout cela, c'était si exactement ce que j'aurais à affronter que devant l'image trop nette que mon esprit se représentait, je cédai enfin à mon désir, je partis. Je partis en tant qu'il s'agissait du moment présent. Je sortis du cimetière et, réfléchissant profondément, je repris le même chemin qu'à l'aller à travers le parc. Lorsque j'eus atteint la maison, il me sembla que mon parti était pris d'exécuter mon cynique projet de départ. Le calme dominical qui régnait tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du château, où je ne rencontrais personne, me frappa comme m'offrant une occasion unique. Si, à cette heure, je partais rapidement, je disparaissais sans une scène, sans un mot. mais il me fallait déployer une rapidité merveilleuse. Et puis la question de l'indispensable véhicule était la plus difficile à résoudre. Dans le hall, anxieuse et tourmentée par les obstacles et les difficultés, je me laissais tomber épuisé sur la première marche de l'escalier. Puis, par une violente réaction, je me rappelais que c'était là, exactement, plus d'un mois auparavant, dans les ténèbres de la nuit et courbé de même sous le poids de pensées mauvaises, que j'avais vu le spectre de la plus horrible des femmes. Alors cela me redressa. Je finis de monter les marches du premier étage, je me dirigeais, en proie à un étrange bouleversement, vers la salle d'études où il y avait des objets à moi que je désirais prendre. J'ouvris la porte. En un éclair, une fois de plus, mes yeux se dessillèrent. Devant le spectacle qui m'accueillit, je vacillais, mais pour me reprendre aussitôt. Assise à ma propre table, dans la claire lumière de midi, je vis une personne que, sans mon expérience antérieure, j'aurais prise au premier moment pour une servante laissée à la garde de la maison, qui aurait profité du manque si rare de surveillance, autant que du papier et des plumes de la salle d'études, pour s'appliquer à l'effort considérable d'écrire une lettre à son bon ami. Il y avait de l'effort dans la manière dont ses mains, avec une lassitude évidente, supportaient sa tête penchée, tandis que ses bras s'appuyaient sur la table. Mais, tandis que je faisais cette observation, je m'étais déjà rendu compte du fait singulier que mon entrée ne modifiait en rien son attitude. L'instant d'après, elle changea de position. Et ce fut alors dans ce mouvement même que, comme en un jet de flamme, jaillit son identité. Elle se leva, non comme si elle m'eût entendu, mais avec une grande et indescriptible mélancolie, faite d'indifférence et de détachement, et à une douzaine de pas de moi, se tint là, debout, toute droite, elle, la vile Miss Jessel. Tragique et déshonorée, elle était tout entière devant moi. Mais comme je la fixais et assurais son image dans ma mémoire, l'affreuse apparition passa, disparut. Sombre comme la nuit dans sa robe noire, sa beauté hagarde et sa douleur indicible, elle m'avait regardé assez longtemps pour sembler me dire que son droit de s'asseoir à ma table était aussi bon que le mien de m'asseoir à la sienne. Vraiment, je frémis d'horreur pendant ces instants, soudainement envahi par ce sentiment que l'intruse, c'était moi. Dans une protestation passionnée, je m'étais directement adressé à elle. « Ô terrible et misérable femme » m'étais-je entendu crier. Et le son, par la porte ouverte, s'en était allé résonner le long du corridor et dans la maison vide. Elle me regarda, mais je m'étais reconquise, et l'atmosphère s'assainissait autour de moi. Une minute plus tard, il n'y avait plus que des rayons de soleil dans la chambre, que des rayons de soleil, et la conviction que je devais rester.